La Russie a pris l'initiative d'une guerre contre l'Ukraine en février 2014 en annexant illégalement la Crimée. Puis Moscou a soutenu des séparatistes dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. L'objectif était probablement de gêner l'Ukraine dans son rapprochement avec l'Union européenne. Le 24 février 2022, le dirigeant russe Vladimir Poutine relance la guerre contre l'Ukraine avec peut-être l'espoir de faire rapidement tomber sa capitale. L'Ukraine résiste et devient même officiellement candidate à l'Union européenne quelques temps plus tard. Pourtant, le soutien de l'UE et plus largement des Occidentaux n'est pas sans limite et sans contrainte. Alors, la guerre en Ukraine affaiblit-elle ou renforce-t-elle la puissance russe? Pour répondre à cette question, nous avons la joie de recevoir Tatiana Kasueva-Jean, directrice du Centre Russie-Eurasie de l'IFRI depuis 2014.
Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise.
Bonjour Tatiana Kasueva-Jean.
Bonjour Pierre Verluise.
Au sujet de la Russie, quelle est la petite musique qui vous semble inexacte?
Il me semble qu'il y a en effet une petite musique qui monte actuellement et qui cherche à insinuer que l'Ukraine devrait céder des territoires pour obtenir la paix. Il est probablement illusoire pour l'Ukraine d'espérer aujourd'hui de récupérer ces territoires prochainement. Et il y aura très probablement un gel de la situation de facto. Mais l'Ukraine ne peut pas se permettre de signer tout simplement la perte de ses territoires. Déjà, quel territoire ? Poutine réclame 4 républiques dans leurs frontières administratives. Or, il ne les contrôle pas entièrement. Accepter la perte de ses territoires serait donner raison à l'usage de la force, accepter la politique du fait accompli, valider la violation des droits internationaux, y compris les traités que la Russie a signés elle-même. Ce serait aussi oublier la volonté de tous les citoyens ukrainiens qui ont dû quitter ce territoire vers d'autres régions de l'Ukraine ou vers l'étranger. Et surtout, cette paix ne serait pas stable et durable. Parce que, souvenons-nous du février 2022, ce que visait Vladimir Poutine, ce n'est pas le Donbass. C'est bien au-delà. Il visait le changement du régime à Kiev. C'est contrôler les choix stratégiques de l'Ukraine qui l'intéresse en ayant un gouvernement fantoche à sa botte.
Et pour nous-mêmes, ça ne serait pas mieux ?
Que l'Ukraine cède des territoires ?
Oui.
À court terme, il y aura un accalmie, il y aura un gel du conflit, etc. On pourra probablement, pour la majorité de l'opinion publique, oublier. Mais je crains que la guerre va revenir. Elle va revenir en force. On a déjà vu cela entre 2014, où il y avait les accords de Minsk qui ont été signés, et on a presque arrêté, pour la majorité des citoyens, de suivre ce qui se passait exactement, jusqu'à ce qu'on réveille, fin février, avec la grande invasion de l'Ukraine par la Russie.
Tatiana Kasueva-Jean, chacun sait que depuis l'annexion de la Crimée, la Russie a subi une série de sanctions, des trains de sanctions les uns après les autres, et plus encore après la relance de la guerre en 2022. Et pourtant, à la surprise générale, l'économie russe semble tenir. Alors, quels sont les ressorts de ce qu'on pourrait appeler la résilience économique de la Russie ?
Il est vrai que la Russie aujourd'hui est le pays le plus sanctionné de l'histoire mondiale et elle a surpris par la résilience de son économie, au point où l'année dernière, la croissance économique en Russie était par exemple de 3,6%, bien au-delà de ce qu'on a pu connaître dans d'autres pays occidentaux, notamment.
Ça fait longtemps que la France n'a pas eu 3%.
Absolument. Et la Russie en plus prévoit d'augmenter la dépense militaire l'année prochaine, qui vont égaler 6,7% du PIB. Et cette résilience spectaculaire, elle est due à plusieurs facteurs. Le premier, c'est que la Russie a réussi à réorienter les flux de hydrocarbures pour les exporter non plus vers l'Union européenne, mais vers les pays asiatiques. Et elle est assez perdante au change. Il y a un manque à gagner parce qu'elle ne gagne pas autant, le prix n'est pas le même. En Chine ou en Inde, elles vont avec beaucoup de remises. Mais néanmoins, ces flux continuent à arriver dans le budget russe. Il y a eu aussi plusieurs pistes pour le contournement des sanctions, et notamment la flotte fantôme, dont on a pu beaucoup entendre parler dans les médias occidentaux. Ces contournements de sanctions, ces différentes filières, ont desserré l'étau en permettant à la Russie d'avoir l'accès à presque tous les biens dont elle avait besoin, y compris des biens occidentaux. Et grâce à ces revenus, la Russie a pu faire des investissements publics massifs dans les industries de défense, qui fonctionnent à plein régime, où les salaires pour les employeurs ont été sérieusement augmentés. La Russie paye aussi beaucoup de paiements sociaux. Tous ces paiements alimentent la consommation, moteur de la croissance. Enfin, ce qui est aussi intéressant, c'est que l'économie russe reste une économie du marché, avec beaucoup d'entreprises privées, qui ont tous cherché de différents moyens pour contourner les sanctions, pour mettre en place des différents mécanismes. Ce sont des mécanismes fonctionnels, mais ils allongent les chaînes d'approvisionnement, les choses deviennent beaucoup plus coûteuses, donc à terme, c'est beaucoup plus difficile. Mais je me souviens, dès les premières semaines, après le début de l'invasion, il y a eu tout de suite des publicités pour les intermédiaires qui pouvaient aider à évacuer les marchandises via la Turquie ou faire des cartes bancaires au Kazakhstan ou encore offrir des passeports avec la citoyenneté de Malte.
Le contournement, c'est dans l'ADN russe, parce qu'à l'époque soviétique, il y avait beaucoup de stratégies de contournement.
On peut dire cela, c'est le système D qui fonctionne, voilà. Mais comme je disais, là aussi, il y a aussi un coût, hein. On ne trouve pas tout, les choses deviennent plus chères, on met beaucoup plus de temps pour les obtenir, donc il y a quand même un manque à gagner pour cette économie qui, par ailleurs, accumule pas mal de fragilités.
Lesquelles ?
L'économie est clairement surchauffée par cet investissement dans le secteur militaro-industriel. Ce n'est pas une économie saine. Il y a une vraie distorsion en faveur de ce secteur. Le rouble a perdu un tiers de sa valeur depuis le début de la guerre. Les importations sont chères. L'inflation est élevée. Elle est à 9% aujourd'hui, alors que l'objectif du gouvernement est de 4%. Et pour contenir cette inflation, la Banque mondiale ne cesse d'augmenter le taux directeur. Et la semaine dernière, le taux directeur a été augmenté à 21%, c'est du jamais vu.
D'État de Russie.
La banque centrale, la fameuse dont la présidente, la fameuse Elvira Nabiullina, comme on dit, gère si bien la crise économique, mais probablement pas si bien que cela, parce qu'elle a la même réponse à tout, donc l'augmentation du taux directeur, qui rend les crédits extrêmement chers. Donc, qui dit les crédits chers, dit un manque d'investissement dans l'économie, au point où aujourd'hui, même les oligarques ou quelqu'un comme le PDG de Rostechnologie, Sergei Chemezov, donc c'est celui qui chapeaute le secteur militaro-industriel, même lui s'exprime contre cette augmentation en disant que les entreprises risquent d'être étranglées et aller à la faillite. Par ailleurs, la Russie, elle avait une sorte de tirelire, le fonds de bien-être national, et ce fonds de bien-être s'épuise beaucoup depuis le début de la guerre, parce que la Russie cherche à couvrir le déficit budgétaire avec cela, de payer la dépense sociale, à la fois l'aide aux entreprises publiques, financer l'effort de guerre, de la sorte qu'il y a quand même aujourd'hui un scénario à risque que ce fonds puisse s'épuiser l'année prochaine, en 2025.
Tatiana Kasueva-Jean, qu'est-ce qu'on sait du soutien de la société russe à la guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine?
Il y a eu, je dirais, plusieurs Russies derrière les sondages qui montrent tous une courbe très élevée de soutien à Vladimir Poutine.
Quel crédit peut-on accorder aux instituts de sondage en Russie et aux sondages plus largement?
Je pense qu'en grande partie, ces sondages restent crédibles. Et surtout que quand on rentre dans le détail, on voit que les choses sont assez complexes. Le nombre de personnes qui répondent à la fois qu'ils soutiennent l'action de Vladimir Poutine, qu'ils souhaitent qu'il y ait une autre mobilisation partielle pour envoyer des soldats, plus de soldats à la guerre, qui, d'accord pour subir l'impact des sanctions, qui ne souhaitent pas le rétablissement des relations avec l'Occident, est finalement assez faible, probablement de 15%. Et vous avez probablement le même chiffre de Russes qui sont contre la guerre. D'ailleurs, les personnes qui sont contre la guerre, dans une grande majorité, ont émigré depuis le début de l'invasion ou depuis l'annonce de la mobilisation partielle et se trouvent aujourd'hui à l'étranger. Et notamment, cela concerne les journalistes, les activistes et les leaders de l'opposition.
Est-ce qu'on peut dire que le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle en Russie, la Grande Guerre patriotique, la façon dont il a été présenté, manipulé dans une certaine mesure, génère un sens du sacrifice, voire une culture de l'effort, au-delà de l'individu?
C'est vrai qu'il y a quelque chose comme cela. Je me souviens, depuis mon enfance, on baignait dans cette mémoire de la grande guerre patriotique, comme on appelle en Russie la Seconde Guerre mondiale. On avait des vétérans qui venaient dans nos écoles pour expliquer leur expérience. On rêvait tous, en quelque sorte, d'un grand destin d'héros.
Des médailles partout sur la boîte.
Absolument, avec beaucoup de médailles. Mais aujourd'hui, vous savez, il y a les vétérans de cette guerre en cours qui viennent dans les écoles pour parler de leur expérience, ce qui n'est pas du goût de tous les parents d'ailleurs. Parce que les enfants sont de cette manière confrontés aussi aux images de violence, etc. Mais il y a un endoctrinement aujourd'hui dans les écoles via les différentes manifestations ou par exemple les moments réguliers, hebdomadaires, qui s'appelle les conversations sur les choses importantes, où les enfants sont au fond embrigadés, où on leur explique ce que c'est l'intérêt de la nation, l'intérêt de la Russie, et pourquoi la Russie mène cette guerre en Ukraine, et pourquoi les valeurs occidentales ne correspondent pas aux valeurs russes.
Par définition, elles sont perverses. Pour caricaturer le
discours. On dit souvent les valeurs décadentes. Mmh. Donc il y a toute une lutte contre cela. La Russie a même adopté une sorte de liste de pays à valeurs décadentes. Et cela correspond avec la liste des pays inamicaux que la Russie a mis en place assez rapidement après le début de la guerre. Évidemment, tous les pays de l'Union européenne et les États-Unis en font partie, ainsi que la France, évidemment.
Donc, un certain soutien à Poutine, et pourtant, qu'est-ce qui se passerait si M. Poutine venait à quitter la scène ?
C'est une très bonne question. Cela dépendrait, je pense, d'une part de celui qui allait arriver au pouvoir, et de s'il va vouloir continuer l'essence du régime de Vladimir Poutine, ou s'il souhaitait vraiment changer. Vous savez, après la chute de l'URSS, il n'y a pas eu de travail sur la mémoire historique, sur les crimes du stalinisme, sur les crimes du communisme. Si les choses se reproduisent, il n'y a à nouveau aucun travail sur la mémoire historique, et la Russie tourne tout simplement la page sans y réfléchir pour passer à autre chose, je pense que comme là, pour l'URSS, toute cette mémoire, toutes ces choses risquent de réapparaître et de revenir.
Planisphère pour Radio Notre-Dame et RCF. Pierre Verluise.
Tatiana Kasueva-Jean, la guerre russe en Ukraine n'a pas été la partie de campagne que s'imaginait Vladimir Poutine en février 2022. Les élites russes, qui étaient habituées à voyager, à aller faire du ski dans les stations des Alpes, notamment en France, ont été pénalisées dans leurs déplacements. Et pourtant, les élites russes sont restées globalement fidèles à M. Poutine. Comment l'expliquez-vous ?
C'est vrai qu'au premier abord, les élites gardent une loyauté à Vladimir Poutine, une loyauté à toute épreuve. Force est de constater qu'aucun représentant des élites politiques, économiques ou militaires n'a vraiment démissionné ou dénoncé la politique de Poutine. Quelques départs de personnalités de deuxième échelon ou l'abandon de citoyenneté russe par une poignée d'hommes d'affaires ne changent pas vraiment la donne. Comme la population, la majorité des élites a encaissé le choc et affiche donc cette loyauté sans faille. Même si la mutinerie de Prigogine en juin 2023 a fait éclater au grand jour les fragilités du système et des revirements possibles. Je dirais qu'aujourd'hui, les élites russes ne sont pas tellement fidèles à Vladimir Poutine personnellement, mais au chef. Si demain le chef change, ces élites, par le passé, ils ont déjà fait preuve du mimicrisme. On peut évoquer le souvenir du moment où c'était Dmitri Medvedev au pouvoir et qui disait « la liberté, c'est mieux que la non-liberté ». On a vu à ce moment-là le clivage dans les élites dont certains se sont concentrés plutôt autour de Dmitri Medvedev. Jusqu'à ce que Poutine annonce son retour. Alors, il y a eu à nouveau une recomposition et les élites se sont soudées derrière le chef. Et puis après, il y a aussi un phénomène intéressant, c'est que finalement, l'Occident n'a pas laissé tellement de portes de sortie pour les élites russes. Ils se sont retrouvés en quelque sorte enfermés en Russie, avec les capitaux, avec les avoirs qui sont gelés à l'étranger. Et donc, ils essayent de profiter de la situation, de préserver leur place dans le système, en s'enrichissant aussi, parce que certains d'entre eux mettent la main sur les actifs qui sont laissés par les entreprises étrangères qui quittent la Russie.
Et alors, est-ce que les élites peuvent devenir un jour un vecteur de changement ?
On a vu par le passé qu'en effet, il y a eu des changements dans le pays. Quand, après la mort de Staline, il y a eu Nikita Khrushchev qui est arrivé au pouvoir, ou avec l'arrivée de Mikhail Gorbatchev qui avait lancé la perestroïka. Je pense que quelque chose comme ça pourrait être possible, mais seulement après la disparition de Vladimir Poutine. Tant qu'il est là, tant qu'il contrôle tous les services de force, les services spéciaux et l'armée, on aura du mal à voir ce qui se passe vraiment dans les élites russes et on ne verra pas une action se mettre en place qui viserait à le renverser.
La Russie que vous décrivez a quand même plusieurs paramètres de faiblesse, notamment la démographie.
Absolument. Et ça, c'est quelque chose de structurel. Déjà, avant la Covid, il y a eu quand même 1 million de morts en Russie pendant cette épidémie. Et avant la guerre en Ukraine, on a du mal à chiffrer les pertes, mais il semblerait qu'il y a eu jusqu'à 500 000 de Russes qui seraient tués ou blessés dans cette guerre. Mais même avant, il y avait déjà des défis structurels. Il y avait une réduction très nette de la population active. Je cite souvent le chiffre de jeunes entre 15 et 19 ans. En 2000, quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, ils étaient un peu plus de 12 millions. Aujourd'hui, ils sont 7 millions. Donc il y a quand même un problème démographique qui attend la Russie et que cette guerre ne fait que renforcer. J'ai parlé du nombre de morts et de blessés, mais il faut aussi citer tous ceux qui se sont exilés à l'étranger et qui se chiffrent jusqu'à 1 million de personnes. Et ce sont les gens dont le capital intellectuel est peut-être parmi les plus élevés. Donc, la Russie,
notamment les 25-35 ans.
Les 25-35 ans, si on parle des métiers, beaucoup les personnes qui font les métiers dans les secteurs d'IT, information, technologie, des informaticiens. Donc les capacités d'innovation et de développement de la Russie pour le futur, clairement se trouvent affaiblies par cette guerre.
Et le vieillissement est aussi une grande caractéristique de la démographie russe. Ce qui est assez étonnant quand on réfléchit à l'échelle de l'Europe géographique, c'est que l'ensemble de l'Europe géographique est dans une dynamique de vieillissement et de diminution de l'accroissement naturel, pour des raisons différentes, parce que c'est des histoires différentes en même temps, hein, des résultats assez proches, mais bon, il faudrait rentrer plus avant dans le détail.
Tout à fait, oui. La pyramide des âges en Russie montre qu'il y a clairement un manque de jeunes, des générations creuses qui arrivent, et notamment à cause des années 90, où le taux de natalité était extrêmement faible, alors que le nombre de personnes âgées, des retraités, augmente très sérieusement.
Tatiana Kasueva-Jean, comment la guerre russe en Ukraine a-t-elle fait évoluer la position de la Russie sur la scène internationale? La Russie veut compter. Elle est obsédée notamment par sa relation avec les États-Unis, me semble-t-il. C'est le partenaire avec lequel M. Poutine veut parler. Et parfois, on se sert de l'Union européenne comme un intermédiaire, mais le vrai interlocuteur, c'est à Washington qu'il est. Alors, concrètement, comment la place de la Russie a évolué?
La Russie, à court terme, peut sembler être renforcée par cette guerre, parce qu'elle lance le défi à l'Occident, qu'elle cherche à présenter comme une minorité globale. Et elle cherche à se positionner comme un leader du Sud global qui mène une sorte de camp anti-occidental. Et on l'a vu d'une manière très claire tout récemment avec le sommet des BRICS+, à Kazan, où évidemment, sur le fond de la guerre, ça ne pouvait qu'impressionner. Autant de pays qui sont venus assister à ce sommet, beaucoup de pays qui souhaitent rejoindre, qui sont des candidats aujourd'hui à l'adhésion à ce format BRICS+. Même la Turquie, qui est membre de l'OTAN, semblait séduite. Et évidemment, tout cela présente la Russie comme le chef d'un nouveau camp qui n'existait pas auparavant.
Anti-occidental.
Anti-occidental, tout à fait.
Caractérisé.
Or, quand on creuse ce camp, il n'est pas du tout homogène. Il y a beaucoup de contradictions entre les différents pays, etc. Et pour citer un exemple, lors du sommet BRICS+, par exemple, il y a eu des choses qui ont été discutées qui concernent les paiements bilatéraux, les billets à monnaie nationale, ou les investissements de la nouvelle banque du développement, qui est la banque du développement des BRICS. Or, cette banque, par exemple, n'investit pas en Russie. Et très clairement, la raison, ce sont les sanctions occidentales. Donc la majorité des pays de BRICS+, ce sont les pays qui ont beaucoup plus de commerce avec les pays occidentaux plutôt qu'avec la Russie. Mais la Russie est le pays le plus vocal et elle cherche à entraîner les autres dans son sillon. Et il est probable qu'à moyen et long terme, on verra certains systèmes de règlement, de paiement notamment, qui peuvent intéresser plusieurs entre ces pays et qui peuvent se mettre en place. Donc il y aura une partie du commerce international qui va échapper au trésor américain.
Je comprends. Et il y a un sujet majeur, c'est la relation entre la Russie et la Chine. Le rapport de nombre en termes d'habitants, c'est 1 à 10. Il y a 140 et quelques millions de Russes et 1,4 milliard de Chinois. Et finalement, dans notre représentation, souvent, la Chine est placée un peu en dessous de la Russie, qui est héritière de l'URSS. Mais en termes de PIB, la Chine est loin devant. Et dans quelle mesure la guerre russe en Ukraine n'est-elle pas pour la Chine une formidable opportunité pour établir un rapport de force favorable à la Chine dans sa relation à la Russie ?
Je pense que la Chine est l'un des pays qui profite de cette guerre, qui bénéficie très clairement de la situation, parce qu'elle voit à la fois l'Occident s'affaiblir, mais aussi la Russie être de plus en plus dépendante de sa bonne volonté. Et la Chine, il faut le dire, a servi de véritable bouée de sauvetage à la Russie dans cette guerre. Sans fournir directement les armes par crainte de sanctions occidentales, elle a quand même procuré à l'économie russe tout le nécessaire, y compris pour son industrie de défense. Les semi-conducteurs, par exemple, ou les différentes composantes électroniques. La Chine, aujourd'hui, est très clairement le premier partenaire russe, avec 35% presque du commerce extérieur russe. Et ce partenariat est très déséquilibré, parce que la Russie, en échange, n'a que entre 3 et 4% du marché chinois. Et Vladimir Poutine doit presque à chaque fois aller personnellement pour débloquer les accès pour les marchandises russes au marché chinois. Et le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a même dit récemment, déjà donc après le début de la guerre russe contre l'Ukraine, a dit que la Chine menait à la Russie une véritable guerre économique. Et il y a des craintes, quand on creuse un peu, dans les élites, notamment les élites économiques russes, les craintes à l'égard de cette dépendance accrue de la Russie envers la Chine, qui détient aujourd'hui la majorité du marché automobile, par exemple, de la téléphonie mobile ou encore du marché des ordinateurs en Russie.
Et alors, si on voulait en savoir plus sur la Russie, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller comme ressources ?
En toute logique, je vous conseillerais les ressources de l'IFRI. Nous en avons plusieurs. Nous avons l'annuaire qui paraît toujours au mois de septembre, qui est le Ramsès, où il y a des contributions très courtes sur différents sujets. Cette année, par exemple, il y a une contribution sur la politique intérieure de la Russie, sur la politique intérieure de l'Ukraine, sur la Russie et ses alliés, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord. Nous avons aussi la revue trimestrielle Politique étrangère, dont j'ai l'honneur de faire partie du comité de rédaction désormais. Et nous avons absolument gratuitement sur notre site nos différentes collections électroniques. Celle de mon centre Russie-Eurasie s'appelle Russie-Eurasie Vision. Et c'est à peu près une fois par mois que nous publions les différents textes qui permettent d'aller en profondeur sur tel ou tel aspect concernant la Russie et aussi la zone post-soviétique. Et
vous pourriez donner des titres ou des sujets qui ont été abordés récemment, des thèmes de cette publication ?
Bien sûr. Par exemple, au mois de septembre, nous avons publié un article sur les BRICS+. Mmh. Est-ce qu'ils peuvent être la bouée de sauvetage pour la Russie en matière de technologie et d'innovation ? Est-ce qu'ils peuvent remplacer l'Occident ? Et je vais dévoiler la réponse très difficilement.
Bien. Je soulignerai aussi qu'on peut se rapporter à l'ouvrage de Laurent Chamontin, que vous avez connu, qui a écrit un ouvrage intitulé « Ukraine et Russie pour comprendre », édité au Diplomweb sous deux formats, au format numérique, j'allais dire, sous forme de page HTML accessible gratuitement, et aussi au format papier via Amazon. Merci. Un grand merci également à notre réalisateur, Guillaume Nougaret. Planisphère recevait Tatiana Kasueva-Jean, directrice du Centre Russie Eurasie de l'IFRI. Elle y dirige notamment la collection électronique trilingue Russie-Eurasie-Vision. que vous pouvez télécharger gratuitement en ligne. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Planisphère.